Et on va prendre Actes 17 et on va lire versets 16 à 34. Actes 17, versets 16 à 34. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos prophètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis, l'aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Et ce matin, donc, on va voir en détail comment l'apôtre Paul s'y est pris quand il est rentré dans cette ville d'Athènes. Donc, on avait déjà eu un message qui introduisait avec le verset 16, la dernière fois que nous avons ouvert le livre des Actes. Je vais reprendre quelques idées pour introduire et puis développer davantage. Et ici, ce qui va conduire notre raisonnement, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble la réaction première de l'apôtre quand il rentre à Athènes. Ensuite, l'attitude qu'il va prendre vis-à-vis des Athéniens, et puis enfin le fond, c'est-à-dire le message de l'apôtre Paul. Alors d'abord courtement la réaction de Paul, on en avait parlé la dernière fois, Paul, il est écrit « sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles ». Et Athènes était une ville spirituellement complètement corrompue. Les idoles étaient nombreuses et on se plaisait à adorer, à prier toutes sortes de divinités. Et ça nous fait réfléchir sur notre propre attitude vis-à-vis du péché quand on voit Paul qui s'irrite comme cela à la vue de cette ville qui est pleine d'idoles. Est-ce que le mal nous dérange ou bien ça ne nous fait rien du tout? Et vous savez, la proximité avec le péché peut nous amener à devenir insensibles au péché. Ça ne nous fait plus rien. Et ça, c'est notre expérience à tous. Et je ne sais pas si vous êtes chrétien ce matin, si vous êtes chrétien, alors vous en avez fait, vous en faites aussi l'expérience dans votre vie. Il arrive quelquefois qu'on s'éloigne petit à petit du Seigneur, et ça peut être pour un mois, deux mois, un an, hein, ou deux ans, c'est possible. On s'éloigne, et à ce moment-là, on commence à s'habituer au péché. Il y a des choses qu'on les refait, et puis on s'y habitue, et puis voilà, on les fait, et ça ne nous fait plus rien. Qu'est-ce que c'est s'éloigner du Seigneur? On peut dire qu'il y a plusieurs degrés quand on s'éloigne du Seigneur. C'est un petit peu comme si vous vous éloignez d'une personne. Vous pouvez changer de trottoir quand vous la voyez, vous pouvez changer de quartier, vous pouvez déménager, aller dans une autre ville, vous pouvez changer de pays, vous pouvez changer de continent. Enfin, il y a un éloignement à chaque fois qui est différent. Et de la même manière, on peut s'éloigner de Dieu et s'éloigner à différents degrés. Et on peut aussi être éloigné de Dieu alors qu'on est dans l'Église. Donc, on pourrait dire, mais on n'est pas très loin, finalement. Mais dans notre cœur, on est éloigné du Seigneur. Et quand on s'éloigne, quand notre vie n'est plus consacrée, quand elle est plus offerte au Seigneur, alors, eh bien, on refait des choses qu'on avait peut-être abandonnées ou rejetées dans le passé. On s'y habitue de nouveau, et puis des mauvaises habitudes s'installent de nouveau, et on se retrouve à faire des choses que nous ne ferions pas si nous étions proches du Seigneur. Et on accepte. Paul sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Et nous aussi, en tant que chrétiens, on peut ressentir une irritation à la vue d'une ville pleine de péchés, de débauches, ou ne rien ressentir du tout. Ça dépend de notre état intérieur, notre relation avec le Seigneur. Est-ce que le péché, c'est quelque chose qui nous contrarie intérieurement? Ou bien on n'a plus de réaction. Par exemple, on n'a plus de réaction quand on regarde la télévision et qu'on voit la débauche. Plus de réaction quand il y a de la vulgarité, quand il y a de l'impudicité devant nos yeux, quand c'est du mensonge, quand c'est des choses iniques, des actions coupables. On s'est habitué petit à petit à de nouveau être en présence du péché et du mal. Alors Paul a une réaction très forte devant cette idolâtrie, c'est un rejet, il y a un écœurement en lui. Et si je reviens, et je m'arrête ici pour ce premier volet, si je reviens sur la réaction de l'apôtre Paul quand il s'est irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles, c'est par rapport à l'attitude qu'il va avoir ensuite. Pourquoi? Parce que Paul rentre dans la ville, ça lui fait un choc, il se balade, c'est une explosion à l'intérieur, une colère contre tout ce péché, toute cette débauche spirituelle. Et puis après, il rentre en contact vraiment avec les Athéniens. Et on peut voir maintenant l'attitude de l'apôtre Paul. Quand on a une réaction très forte, quelque chose qui nous scandalise, il faut prendre garde aussi à la réaction que nous pouvons avoir, à l'attitude que nous pouvons prendre suite à ce que nous avons vécu et vu ou à ce qui nous a choqué intérieurement. Et quand on regarde la manière dont l'apôtre va parler à l'aréopage, c'est remarquable. On a le droit d'être irrité à cause du péché comme il le fut, mais on a aussi pour devoir de nous maîtriser nous-mêmes. Et Paul va garder une bonne attitude vis-à-vis des Athéniens parce qu'il veut les gagner à Christ. Son désir le plus cher, c'est vraiment de les gagner. Et avant de parler du fond, c'est-à-dire du message, j'aimerais qu'on se penche sur la forme. Parce qu'il y a le fond et il y a la forme, il y a les deux. Il faut toujours regarder le fond et la forme quand on fait, quand on dit une chose. Parce que si on néglige la forme, on aura beau avoir raison sur le fond, on va perdre le bénéfice du bon fond qu'il y a. Dans les premières années de ma vie chrétienne avec le Seigneur, donc je suis parti à l'Institut biblique, et un jour on m'a demandé de prêcher dans la rue. Et c'était une catastrophe. Mais la catastrophe n'était pas en soi dans le fond. Le fond, est, je pense, c'était l'Évangile. Mais peut-être dans le stress, dans la peur de faire ça. C'était à Paris, dans les rues de Paris. J'étais agressif. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais c'est une catastrophe. J'étais agressif mais finalement pour surmonter cette peur. Hein. Raison dans le fond, mais complètement tort dans la forme. C'est pour ça que c'est très important d'y penser. Paul va user de tact et d'intelligence. Il va savoir contourner les écueils pour finalement arriver à dire ce que les Athéniens avaient besoin exactement d'entendre. Et ça, c'est une qualité précieuse que d'avoir du tact, de l'habileté dans la manière de communiquer les choses. Je lisais une illustration quelque part. C'est un agent publicitaire de New York qui a voulu faire une expérience. Donc, il s'est habillé avec des vêtements abîmés, vieux, des loques. Il a mis des lunettes noires. Il a pris une tasse qu'il a mise dans sa main. Et puis, il s'est fait une petite pancarte. Il l'a mise autour de son cou. Et il est allé dans Central Park. Et là, eh bien, il était comme ça. Et sur sa pancarte, c'était écrit « aveugle ». Donc, il a recueilli $44.10. Le jour suivant, il refait l'expérience. Donc, il reprend les mêmes vêtements, les mêmes lunettes, etc. Mais il change la pancarte. Cette fois, il met « C'est le printemps et je suis aveugle ». Et il tend son gobelet. Et là, on lui met $161.75. 4 fois plus. Incroyable, hein ? Alors, bien sûr, on est tous d'accord, hein, ça joue sur les sentiments. Hein, il y a un aspect très pernicieux hein, dans ça, hein, réussir à soutirer davantage. Mais on voit bien que la communication, elle change la manière dont on reçoit l'information. Le fond, ça ne changeait pas. C'était un aveugle qui était en train de mendier. Mais par contre, la forme, la manière de le dire, elle était différente. Et le résultat n'est pas le même. Si je vois quelque chose qui ne va pas dans votre vie et je vous dis « c'est pas bien, Dieu ne veut pas ça, il faut que tu arrêtes, hein, vraiment. » Et un risque que ça provoque le contraire de ce que je voulais. Si par contre, je vous aime, je prends du temps avec vous et vous voyez que je vous aime et je vous dis « tu as tort », eh bien là, la chose ne va pas être prise de la même manière. Et là, je vais pouvoir employer des mots différents et ça va être beaucoup mieux reçu. Lui dire, mais tu sais, je pense que là, tu te trompes à cause de ça, à cause de ça. Tu ne devrais pas faire ça. Et finalement, c'est toujours la même chose, mais c'est la forme qui change. Et il faut avoir la forme pour dire les choses. Avoir raison sur le fond et tout gâcher sur la forme. Paul était irrité à l'intérieur. Mais il ne s'est pas laissé emporter par son irritation. Il aurait pu se laisser emporter. Mais non, il s'est maîtrisé lui-même par le Saint-Esprit. Alors, eh bien, que nous puissions avoir une réputation, non pas la réputation de manier une masse, bam, et de taper sur les têtes, mais plutôt la réputation d'avoir la douceur de la sagesse qui sait, eh bien, amener les choses de la bonne manière. Que ce soit pour les inconnus ou que ce soit dans l'église du Seigneur pour les frères et sœurs. Imaginez que Paul, donc il vit tout ça, et il commence à dire aux Athéniens, « Vous êtes des idolâtres abominables, la parole de Dieu dit, Deutéronome, à l'aréopage, je me trompe souvent, aéropage, aréopage, eh bien, il est probable que tous les Athéniens soient partis, hein, qu'ils aient filé avant même qu'il ait pu prononcer quoi que ce soit concernant la repentance et la résurrection. Et c'est intéressant de voir que Paul s'appuie sur ce qu'ils étaient, à savoir un peuple qui était porté vers l'idolâtrie. Verset 22, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Et là, on se dit, mais quel tact il a. Il ne dit pas, je vous trouve extrêmement idolâtre. Non, il leur dit, je vous trouve extrêmement religieux. Hein? C'est incroyable. Hein? Donc, il choisit ses mots, mais pour en venir là où il souhaite. Hein? Verset 23, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Donc, il y avait des autels dédiés à tous les dieux un peu partout dans la ville. Et puis, il va s'appuyer sur l'un d'entre eux. C'est une porte large et ouverte, hein, à un dieu inconnu, un dieu qu'on ne connaît pas. En fait, j'ai lu qu'il y a deux écrivains anciens qui s'appellent Pausanias et Philostrate. On sépare eux. Donc, il y avait plusieurs autels à un dieu inconnu dans la ville d'Athènes. Il n'y en avait pas qu'un. Et on sait également par un récit donc, d'un autre homme qui s'appelle Diogène Laërce que ces autels sont apparus à une période où il y avait la peste. Et il y a un autre grec hein, qui s'appelle Épiménide qui, du fait de la peste qui était dans la ville, a pris des brebis qui étaient noires et blanches et qui les a laissées courir dans la ville. Et quand la brebis s'arrêtait, alors il l'attrapait et puis là, il l'a saigné. Il faisait une offrande. Et puis de là, eh bien, c'était une offrande à un dieu inconnu qui, par sa grâce, hein, ôtera la colère et permettra que la peste s'arrête. Et c'est comme ça eh bien, qu'on a fait plusieurs autels à un dieu inconnu. Donc, il y avait plusieurs autels, mais Paul saisit l'opportunité. « Je viens vers vous justement pour vous parler de ce dieu que vous ne connaissez pas. » Ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a fait le ciel et la terre. Et c'est ce qui s'appelle saisir la bonne occasion, saisir la bonne entrée en matière. On ne sait pas toujours comment il faut faire pour parler. Hein. Souvent, on est là un peu comme Moïse, on bégaye, qu'est-ce que je dois dire ? Mais c'est en restant à côté du Seigneur, dépendant du Seigneur, qui peut nous aider justement à voir les circonstances, voir les choses qui sont autour de nous et saisir la bonne parole au bon moment pour introduire l'Évangile. Et petit à petit, on voit Paul qui va conduire les Athéniens jusque l'Évangile. Il est intéressant aussi de soulever qu'il va s'appuyer sur leurs écrits. Au verset 28, il dit « C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos prophètes. De lui, nous sommes la race. » Donc, ça fait partie aussi de la forme ici. Hein. Il avait une connaissance de la culture grecque. Et en fait, ce n'est pas qu'il connaissait toute la culture. C'est que ce poète, l'un de ces poètes qui a dit cela, c'était justement un poète de la Cilicie, d'où Paul venait. Donc, il avait étudié et il se souvenait de ça. Et il s'appuie dessus pour pouvoir introduire l'Évangile. Donc, pour résumer... Paul soignait la forme quand il voulait présenter quelque chose, dire quelque chose, parce qu'il savait que l'attention d'une personne, elle n'est possible que si elle n'est pas heurtée par la forme. Sinon, elle se bloque et c'est terminé. Maintenant, voyons ensemble le fond, c'est-à-dire le message de Paul. Et s'il y a le tact pour parler d'une chose, il faut aussi que le message ait du contenu. Et c'est, quand je lisais ça, je me disais, mais c'est incroyable ce qu'il arrive à dire dans une portion si courte des Écritures. Il enchaîne des phrases, mais c'est tellement riche. C'est une description pertinente, incisive, de la personne de Dieu, Dieu du ciel, créateur des cieux et de la terre. Et en même temps, c'est simple, c'est très simple. Les deux à la fois. Pertinent, simple. Alors, il leur fait cette description de ce Dieu inconnu. Qui est-il ? D'abord, verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Donc, d'abord, Paul oriente leur pensée vers Dieu comme un créateur. Il est le créateur. Et on voit que c'est souvent sa manière d'agir quand il s'adresse aux païens. On ne va pas le prendre, mais si on vous souvenez de l'histoire dans Acte 14 à Lystre, quand Paul et Barnabas vont guérir un boiteux, à ce moment-là, la foule va être en liesse et va vouloir lui offrir un sacrifice. Et tout de suite, à ce moment-là, Paul et Barnabas vont vouloir empêcher ce sacrifice et ils vont dire « Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Donc le Dieu inconnu, c'est d'abord le Dieu créateur. Tout a été fait par lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui et c'est lui qu'ils doivent reconnaître. Et c'était important pour ces Athéniens d'entendre cela. Pourquoi ? Parce qu'il y avait parmi eux des philosophes, on l'a vu, qui étaient stoïciens et donc qui étaient panthéistes. C'est-à-dire que pour eux, tout était Dieu et Dieu était en tout. Donc il n'y avait pas une cause transcendante et supérieure qui avait créé toute chose, mais voilà, Dieu était dans la matière. Et donc je lisais quelqu'un qui me donnait ce mot que j'emploie pas souvent, voilà, immanent. C'était immanent, donc ça avait partie, plutôt que transcendant, plutôt qu'une cause qui est extérieure et au-dessus. Mais Paul décrit Dieu tel qu'il est véritablement, un Dieu supérieur. Mais aussi, c'était important parce qu'il y avait les Athéniens, parmi les Athéniens, il y avait des Épicuriens qui, eux, pensaient que la matière était éternelle, donc il n'y avait pas de créateur, elle était là depuis toujours. Et vraiment, il choisit ces mots-là et il veut parler du Dieu créateur, et bien aussi à cause de ces philosophies qui étaient dans la ville. Et le fait de choisir la forme, de choisir la manière de dire les choses, ça ne doit pas être au préjudice du fond. Paul n'est pas en train d'essayer de faire un compromis avec la vérité. Il expose de manière intelligente, mais aussi d'une manière qui est directe. Par exemple, par souci de ne pas heurter, on pourrait éviter de dire certains sujets de la parole de Dieu. On n'en parle pas. Par exemple, que l'homme qui ne croit pas va périr. C'est-à-dire, il va être jeté dans un lieu de tourment. Parce que, ben voilà, c'est quand même pas une vérité qui est facile à accepter. Eh bien, hop, on contourne et puis finalement, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et là, bien, c'est sûr, peut-être on va soigner la forme, mais il n'y aura plus de fond. Il n'y aura plus rien. Il faut dire la vérité. Et Paul est direct avec les stoïciens, les épicuriens. Pourquoi ? Parce que leur conception de Dieu, elle était fausse, elle était erronée. Et donc, il fallait dire la vérité. Ensuite, donc il est en train de nous décrire la personne de Dieu. Il dit que c'est le Dieu qui soutient notre vie, verset 25. Il dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Donc ici, dans ce passage, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est que Dieu n'est pas celui qui a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais nous, on a besoin de Dieu. Nous, on dépend véritablement de lui. Et c'était vraiment important pour eux de le comprendre. On ne sait pas dans quelle mesure ils pensaient qu'eux, ils apportaient quelque chose à leur Dieu, à toute leur divinité. Par exemple, je lisais qu'il y avait des grandes fêtes à Athènes qu'on appelait des Panathénées. Et dans cette fête, à l'issue de la fête, on avait préparé un vêtement durant toute l'année pour Athéna. Et alors, on portait ce vêtement en grande pompe, c'était la joie, la réjouissance. Et puis, on allait sur l'Acropole et on habillait Athéna de ce vêtement, offrande qu'on faisait à la déesse, qui était censée protéger la ville. Alors, on comprend que Paul dise d'une manière inspirée, « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Parce qu'il pensait offrir des choses aux dieux. Non, au contraire, c'est plutôt Dieu qui donne, lui, c'est lui qui nous donne la vie, la respiration et toute chose. Dieu n'a pas un réel besoin de nous, mais nous, nous avons entièrement besoin de lui. Nous sommes même dépendants de notre Créateur. C'est lui qui soutient chaque seconde de notre vie. Chaque seconde, c'est lui qui nous la donne. Je regardais des documents sur le sujet de la rupture d'anévrisme. Alors, j'ai compris certaines choses. On entend rupture d'anévrisme. Finalement, est-ce que vous savez ce que ça veut dire anévrisme ? Moi, je ne savais pas, en tout cas. Et en fait, anévrisme, ça signifie dilatation. Et donc, un anévrisme, c'est une dilatation d'un vaisseau. Une rupture d'anévrisme, eh ben, c'est le vaisseau qui, voilà, qui finit par se déchirer, ou qui laisse passer le sang et qui provoque un caillot, une poche de sang. Et en fait, je lisais qu'on peut être tous, on peut avoir un anévrisme, c'est-à-dire une dilatation quelque part d'un vaisseau. C'est possible. On peut même vivre toute sa vie avec, sans le savoir. Mais pour certains, eh bien, il y a une rupture d'anévrisme. Et dans le cerveau, eh bien, c'est l'AVC. À peu près, je lisais, 5000 personnes touchées en France chaque année. Souvent des personnes de plus de 35 ans. Mais en creusant un peu le sujet, je me suis aperçu que même à 23 ans, à 25 ans, à 26 ans, et il y a plein de témoignages hein, de souffrance, de gens très jeunes qui sont partis comme ça. Et on se dit, moi je fais ce que je veux. Je suis libre. Voilà. Et notre vie, elle tient un fil. Et c'est Dieu qui tient le fil. Et donc, ben, c'est lui qui choisit quand le fil se rompt et que la vie s'arrête. Notre vie tient à un fil. On dépend tous entièrement de Dieu. Et c'est lui qui nous accorde chaque seconde de notre vie. Il soutient notre vie. Il nous donne la respiration. Il nous donne toute chose. Et Paul dit, il est aussi celui qui tient l'espace et le temps entre ses mains. Au verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Là encore, incroyable comme Paul est concis dans ce qu'il prêche. Chacune de ses phrases est choisie, elle est pleine de sens, elle est directe. Il dit « Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang ». C'est très court ça, hein ? Mais plein de sens. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici ? Il est en train de dire que nous descendons d'Adam et Ève. Nos premiers parents, c'est un couple, Adam et Ève, un même sang. Un seul et unique couple. Alors, eh bien, on est tous, même sur Terre, issus d'un même sang, donc frères et sœurs, entre guillemets, hein, tous parents d'une manière éloignée. Les Grecs croyaient que leurs origines venaient donc des différents dieux qu'ils vénéraient. Et Paul dit, nous venons d'un seul Dieu qui a créé un seul couple. Mais aussi dire que nous venons d'un seul sang, ça veut dire nous sommes tous égaux. Et ça, c'était important aussi de dire ces choses-là. Pourquoi ? Parce que les Grecs, ben, ils pensaient qu'ils étaient supérieurs. Pour eux, ils étaient les meilleurs parce qu'ils se comparaient aux barbares. Ils disaient, mais l'élite de l'humanité, c'est nous. Les Juifs, de leur côté, ils se disaient, l'élite, c'est nous, le peuple élu. Et il y a toujours cet orgueil dans les peuples de penser qu'on est l'élite. Mais Paul dit, non, nous sommes tous issus d'un seul sang et donc tous égaux. Et puis Dieu dit, donc Paul dit que Dieu est celui qui tient l'espace et le temps. C'est lui qui nous a placés sur cette terre en délimitant les bornes des demeures de chacun. Donc on peut trouver plusieurs applications à ça, mais il l'a fait notamment au travers de la tectonique des plaques, en séparant les continents. Il l'a fait en permettant les montagnes qui séparent hein, les peuples, les pays. Il l'a fait avec les mers, avec les déserts. Il a permis une séparation comme cela. Il l'a fait volontairement, et vous le savez, à cause de Babel. Mais aussi Dieu, on peut dire, a délimité notre demeure à tous en tant qu'être humain. Et notre demeure à tous, c'est la terre. Et on est enfermé, entre guillemets, hein, on est délimité, on a des bornes à notre demeure, c'est la terre. C'est la terre. Il y a une barrière qui est infranchissable, c'est l'univers. Or bien sûr, dans notre imagination, et avec les progrès, parce que nous arrivons à voir un peu plus loin, eh bien, l'homme s'imagine passer au travers des galaxies et de la Voie lactée et de tout cela. Mais la réalité, c'est que nous sommes cloués sur la Terre. Alors oui, c'est vrai, on a réussi à aller sur la Lune. C'est vrai que l'homme rêve d'aller mettre une base sur Mars. Mais, enfin, je veux dire, c'est quoi Mars ? Si on regarde en comparaison la Terre, aller sur Mars, ben, c'est faire ça, quoi. Hein ? Par rapport à l'univers. L'univers, on est cloué sur la terre parce que Dieu a mis des bornes à notre demeure. On est minuscule. mais c'est aussi lui qui a fixé la durée des temps. Le temps ne nous appartient pas, on vient d'en parler un petit peu, mais aussi le temps des gouvernements, le temps des rois, le temps des présidents ne leur appartient pas. C'est quelque chose qui est très parlant quand on lit le livre de Daniel, où là on voit les dirigeants du monde qui se succèdent. Voilà, et Dieu dit stop, hop, en une journée, hein, il dit comptez, comptez, pesez. Voilà, comptez, comptez, pesez.
Léger.
Voilà. C'est-à-dire, et hop, c'est terminé pour lui. C'est terminé pour lui. De même, Nebuchadnezzar, pouf, un instant, et c'est la fin. C'est la fin. Dieu est aussi celui qui tient le temps, qui compte le temps. Il est aux commandes. Dans le livre de Daniel, on voit aussi qu'il y a un temps des nations. C'est-à-dire, il y a un temps délimité. Dieu a fixé leur temps. Il est aussi parlé de la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Le temps est entre ses mains. Et notre temps est aussi entre ses mains. Le temps qu'il nous a donné sur cette terre. Ensuite, on peut voir encore que Paul nous explique que nous avons été faits à l'image de Dieu. On peut le voir au travers du verset 29. « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » Paul dit que nous sommes la race de Dieu, ou le mot c'est l'espèce, l'origine de Dieu. Dans la Genèse, on lit que l'Éternel a dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est Dieu qui dit ça. Il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et c'est en cela eh bien, qu'on peut comprendre, hein, nous sommes de la race de Dieu, c'est-à-dire nous sommes issus de lui. Et quand on regarde Athènes, on se dit, mais quelle dégradation et quel abaissement que de se prosterner devant la matière alors que nous sommes faits à l'image de Dieu. Croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre. Paul leur dit que Dieu est bien plus que cela et que eux devraient être bien plus que de simples adorateurs d'un bout de bois ou d'un bout de pierre. Ils sont faits à l'image de Dieu. Il y a aussi une chose intéressante que j'ai relevée dans un commentaire, c'est la manière dont Paul tourne sa phrase. C'est une phrase sévère, hein. Il est en train de leur dire, mais là il parle de l'idolâtrie. Il dit, mais franchement c'est n'importe quoi. N'importe quoi de se prosterner devant de la pierre et du bois ou de l'or. Mais encore, il emploie une tournure pleine de tact. On voit ici la forme. Il dit, nous ne devons pas croire. Autrement dit, on n'est pas obligé de croire ça, hein? Non? Et on voit ici qu'il a la manière de le dire. Et dans la manière de dire une chose, on peut s'inclure ou s'exclure. Et ça change beaucoup. Si vous dites « vous » ou « tu » ou dire « nous devrions », c'est pas pareil. La chose n'est pas prise de la même manière. C'est quelque chose d'important. Et puis finalement, Paul en arrive au message. Vraiment, il veut qu'ils entendent ce message de l'Évangile. Alors, versets 30 et 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine. » En le ressuscitant des morts. Et là, il nous apprend que Dieu est aussi un juge. Il va juger le monde. Et on ne cache pas la vérité, même si elle est dure à entendre. Dieu va juger le monde selon la justice. Et à ce moment-là, toutes les vies, toutes nos vies, se retrouveront dans une pleine lumière. Lorsqu'il viendra, il est écrit que le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et il va manifester les desseins des cœurs. Ce n'est pas à nous de juger, c'est à Dieu de juger. Et chaque homme, eh bien là, sera devant Dieu. Et là, il n'est rien de caché qui ne sera découvert, rien de secret qui ne sera mis au jour. Alors peut-être que les païens furent longtemps ignorants de toutes ces vérités du Dieu du ciel. Et Dieu, on lit, eh bien, tient compte des temps d'ignorance dans son jugement. Mais ce que Paul dit, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus aucune excuse pour l'ignorance, parce que Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Ça, c'est l'affirmation, voilà. Que vous le sachiez maintenant, tous, nous avons besoin de nous repentir. Et le message de l'Évangile commence avec la repentance. Pour échapper au jugement futur, à Dieu le juge, il faut la repentance. Il faut passer par la repentance. Mais c'est dur. C'est extrêmement dur de plier le genou et de demander pardon. On le voit bien dans nos rapports les uns avec les autres. Hein, combien on a du mal à se dire pardon les uns aux autres. Hein. C'est... Eh bien, vis-à-vis de Dieu, c'est pareil. On a bien du mal à vraiment courber notre cœur et à dire « Je te demande pardon, je suis coupable, j'ai besoin de ton pardon, et pitié de moi, sauve-moi. » Mais c'est très important. Il n'y a qu'une prière sincère, vraiment de foi et de repentance qui peut faire que Dieu ôte le jugement, que Dieu ne soit plus un Dieu en colère contre notre péché, mais qu'il devienne un Dieu favorable, un Dieu, un Père, quelqu'un qui nous prend sous son aile. Dieu a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est Dieu qui le dit, c'est la vérité. Si on confesse, il est fidèle et juste pour le faire. Mais si on ne confesse pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, eh bien, nos péchés ne sont pas pardonnés. Alors, nous ne sommes pas purifiés. Alors, eh bien, on va se présenter et on sera jugé avec sa justice, pas avec la nôtre. On a notre norme de justice. On s'imagine, ah, mais ça, c'est la justice. Non, il faut regarder la norme dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Ça, c'est la norme de Dieu. Et là, on se dit, ouh, la justice de Dieu, c'est sévère. C'est sévère. Il faut se réfugier sous le sang de Jésus-Christ. Et Dieu va juger par Jésus-Christ, c'est ce que Paul a voulu leur expliquer lorsqu'il a dit « ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts ». Et là, il semble, alors, apparemment, il n'a pas pu en dire plus. Hop, ils se sont moqués, ils n'ont pas voulu en entendre davantage. J'imagine que Paul eh bien, aurait développé, il aurait expliqué davantage eh bien, Jésus-Christ, sa mort, son sang, etc. Il leur aurait dit que toute l'humanité est enfermée sous la condamnation à cause de leurs péchés, mais que Jésus-Christ est venu, qu'il a versé son sang, que son sang purifie, qu'il faut croire en lui, qu'il faut se repentir, l'accepter dans son cœur. Et alors, on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et on devient un enfant de Dieu, un enfant pardonné, un pécheur gracié. Mais qu'en est-il pour ceux qui ne croient pas? Alors, eh bien, Christ, qui veut être leur sauveur, devient leur juge. Il est dit, Dieu l'ayant établi, juge des vivants et des morts. Jésus-Christ, juge des vivants et des morts. Alors, pour conclure, on voit que Paul ne transige pas avec la vérité. Il dit la vérité, mais il l'a dit aussi avec la douceur de la sagesse. Hein. Le fond est là, mais la forme est là, il y a les deux. Et il ne se laisse pas emporter, hein, même par ses sentiments intérieurs ou sa révolte intérieure, mais il fait attention, dire les choses de la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner les Athéniens. Il les aime finalement, il veut les gagner. Et de la même manière, nous, si on aime, on va vouloir gagner. Et on va tout faire pour gagner. On va y mettre les formes, on va dire la vérité, mais avec tout ce qu'il faut. Alors, je ne sais pas où en est chacun ici ce matin, mais j'aimerais vous donner un dernier verset qu'on n'a pas lu ou relu. C'est le verset 27. Il est dit que Dieu a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, les hommes, et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et je ne sais pas où on en est, où chacun en est aujourd'hui avec Dieu, mais voilà ce que Dieu nous dit. Dieu veut qu'on le cherche et il n'est pas loin. Il est vraiment là. Et si on cherche, eh bien on va trouver, c'est certain. Et si vous avez entendu sa voix ce matin, si vous savez où vous en êtes, alors eh bien repentez-vous. N'attendez pas. Ne repoussez pas. Demandez au Sauveur qui vous pardonne vos péchés. Et dans l'instant, vous serez enfant de Dieu, réconcilié, pardonné.